On va rester à l'IUT de Tours, toujours pour, à l'occasion de cette journée porte ouverte. On va changer par contre de formation. Alors il me semble qu'il y a des... Est-ce que tout le monde est autour du plateau? Parce que là on reçoit un groupe un peu plus nombreux. On va attendre que tout le monde s'installe. Moi sur mon conducteur, on a avec nous des étudiants donc de deuxième et troisième année accompagnés de Corinne Tast, c'est ça?
C'est moi.
Ok. Et est-ce que vous pouvez nous présenter votre formation et les étudiants aussi peut-être nous parler eux de leur expérience, parce que maintenant qu'on est, qu'ils sont déjà peut-être bien installés dans cette formation.
Alors du coup, je vais prendre la parole en premier, puisque là, en attendant que nos étudiants s'installent. Donc moi, je suis Corinne, je suis responsable du parcours sciences de l'environnement et écotechnologie en bio, donc dans le département génie biologique. Donc avec nous, on a deux étudiants de ce parcours-là, de deuxième et troisième année, donc qui ont déjà vu un petit peu de la formation. Et donc on les forme à tous les métiers de gestion de l'environnement, que ce soit les pollutions, que ce soit le traitement des déchets, que ce soit la gestion de la biodiversité. Donc c'est assez large dans tous les métiers de l'environnement. Et aujourd'hui, on voulait mettre en valeur un type de formation un peu particulière qu'on a dans notre parcours et qui est très présent, qui est la partie terrain, c'est-à-dire toutes les fois où on amène nos étudiants à l'extérieur, des fois dans des conditions climatiques qui ne sont pas top, mais ça fait vraiment partie de leur formation et c'est un
c'est-à-dire
gros plus.
Des questions climatiques pas top.
Alors ben, ça nous arrive de sortir, la première sortie terrain qu'on fait en première année, c'est au mois de décembre. Et on va sur une rivière, et donc c'est les pieds dans l'eau, et il fait 0 degré, et ça soude la promo, mais ça se passe très bien en général, et c'est pour eux vraiment un plus pour leur formation. Donc c'est ça qu'on voulait mettre en valeur avec nos étudiants aujourd'hui.
Alors là, libre aux étudiants de répondre à la question que je posais ou aux enseignants, mais tout de suite à chaud, comme ça, vous parlez de terrain, vous parlez de biodiversité, d'environnement. Dans l'actualité, là, depuis 10 jours, on en parle beaucoup, on parle de certains métiers, justement, d'observation et de contrôle de la biodiversité. Est-ce que dans votre formation, vous êtes au cœur et à la fois et des politiques publiques, mais aussi, vous aura pas échappé, de certaines polémiques autour justement de tout ça et de choses fausses qui peuvent être apportées.
Moi, je veux bien répondre. Dans les thématiques environnementales, on est très rapidement effectivement sur des questions qui sont controversées. Aussi bien parce qu'on doit prendre en compte des enjeux qui sont vraiment purement sur les questions de qualité des milieux, mais aussi parce qu'il faut prendre en compte des attentes socio-économiques qui parfois peuvent être divergentes, et c'est là que vont naître les enjeux controversés. Donc oui, nos étudiants, on essaye de les former aussi à ça, pas forcément de manière à prendre parti, mais au moins de manière à pouvoir prendre en compte l'intégralité des points de vue, l'intégralité des acteurs qui vont se mobiliser autour de ces thématiques.
Parce que les étudiants, au bout de leur formation, vers quel métier, vers quels organismes on les retrouve après professionnels?
C'est extrêmement diversifié parce qu'on fait travailler nos étudiants sur toutes les thématiques environnementales. Et finalement, en termes de débouchés professionnels, entre le quotidien de quelqu'un qui va être chargé d'optimiser la collecte des déchets dans une agglomération ou qui va être chargé de faire du suivi d'espèces protégées dans une réserve naturelle, ça pas du tout la même réalité, le même métier au quotidien.
Après, pour rebondir sur le côté un peu controversé dont on entend beaucoup parler ces derniers jours, on les forme à intervenir à l'OFB. Enfin, ils pourraient travailler dans ce genre de structure qui actuellement on en entend beaucoup parler dans les médias. On essaye de les former un peu aussi à ce que disait Monsieur Volker, à tous les points de vue qui peuvent exister. Ils vont être en contact avec le monde agricole, avec les industriels, etc. Donc il faut qu'ils apprennent aussi à animer, à parler, à pouvoir intégrer tous ces éléments. C'est difficile pour nous de les mettre vraiment en situation face à, en tout cas durant la formation, peut-être en stage, en apprentissage, ça ils pourront peut-être l'avoir. Et c'est vrai que nous, en formation, concrètement, c'est un peu compliqué.
On peut donner la parole justement à deux étudiants qu'on va laisser se présenter puis nous expliquer où ils en sont dans leur projet professionnel et ce qu'ils font actuellement.
Bonjour à tous, moi c'est Morgane Barbeau, je suis en troisième année du coup de BUT Génie Biologique Parcours Sciences de l'Environnement et Écotechnologie. Je fais ma troisième année en apprentissage et pour revenir un petit peu sur le terrain et les controverses, j'ai fait mon stage et mon apprentissage dans le public Donc en seconde année, mon stage de 2 mois, je l'ai fait dans une commune où j'ai pu faire des présentations aux élus. Et donc là, j'ai dû parler de controverses de gestion des espaces verts. Donc j'ai eu fallait convaincre et surtout avec l'aspect toujours technique. Voilà. Et là, actuellement, je travaille dans une agglomération de 27 communes. Donc c'est aussi des tendances politiques. Et faut toujours avoir cet aspect technique et scientifique en essayant du coup de toujours être avec des pincettes au niveau des politiques, tout ça, mais toujours dans des directions environnementales vertueuses. Voilà.
Bonjour à tous, pardon. De mon côté, donc moi je m'appelle Matteo Freitas, je suis étudiant dans la même formation qui a été citée précédemment, mais en deuxième année. Et sur ce que j'aimerais faire, moi, c'est encadrer les grands chantiers, on va dire, les gros chantiers style construction de lignes de chemin de fer, par exemple, parce que je pense qu'à l'avenir, on va aller vers de plus en plus de grosses infrastructures comme ça, de construction pour se préparer au monde de demain. Et il ne faut pas que cette préparation se fasse au détriment du peu de biodiversité qu'on a réussi à conserver jusqu'ici. Et il faut vraiment faire les choses bien et pas... il faut que ce soit pris en considération et pas comme ça a été fait ces 50 dernières années.
Et vous êtes étudiant, donc en troisième année, vous êtes bien installé à l'UT. Quels conseils vous donneriez à aujourd'hui des jeunes qui viendraient aux portes ouvertes, qui se poseraient des questions sur cette formation? Quelle curiosité faut avoir? Quel parcours faut avoir? Quelles qualités sont attendues dans votre formation?
Dans notre formation, je dirais que tout d'abord, être intéressé par l'environnement en général, donc avoir cet intérêt-là, je ne vous parle pas de forcément trier vos déchets tout de suite très bien ou regarder et connaître tous les papillons directement, parce que ce n'était pas mon cas non plus, mais avoir cette approche, justement, on est ici pour parler du terrain, très terrain extérieur, ça c'est quelque chose que j'avais pour ma part et que j'ai l'impression que mes collègues avaient ça aussi avant de rentrer ici. Voilà un peu en termes de qualité, être intéressé, curieux aussi, pas arriver dans la formation et se dire je veux faire de la biodiversité, non, parce qu'on va voir le panel entier de l'environnement et voilà, pouvoir être curieux et s'orienter dans d'autres domaines et être polyvalent aussi tout en étant technicien.
Et en termes de charge de travail, cette formation, comment s'articule? Il y a période en classe, des stages, en termes d'investissement personnel, qu'est-ce que ça représente?
Je trouve qu'en termes d'investissement personnel, je ne sais pas si tu en diras pareil, c'est assez bien parce que c'est un travail régulier qui est fait, c'est du travail d'équipe, ça ne demande pas de grosses révisions et le fait que ça soit du contrôle continu, ça va. Après, chacun a ses difficultés aussi. En termes de révision, d'encadrement, de soutien, que ce soit au niveau de la classe ou des profs, on est bien soutenu. Donc en termes de charge de travail, si on est un étudiant moyen et qu'on vient, enfin on était un lycéen moyen, si on continue de travailler comme on fait et limite en plus on va se faire quelque chose qui nous intéresse, donc on va continuer de bosser et encore plus approfondir, pour moi c'est ça, enfin c'est cette direction là et ça peut être assez léger en termes de charge de travail.
Puis il y a aussi l'aspect d'aimer, entre guillemets, ce qu'on fait. Enfin, il y a des matières qu'on va vraiment apprécier, on va percevoir le sens qu'elles ont, et réviser des matières qu'on aime, c'est beaucoup plus plaisant, et on ne voit pas forcément ça comme du travail. Donc, puis en plus de tout ça, c'est une formation qui nous laisse vraiment de l'air pour respirer. Enfin, on voit, on s'investit à côté, par exemple, avec l'OAB, l'Observatoire Agricole de la Biodiversité. On va sur des parcelles à Saint-Pierre-des-Corps pour faire encore cet aspect terrain qu'on va chercher encore plus loin. Et on a du temps pour tout ça, et c'est un vrai plus.
Là, on vous voit, vous êtes dans le hall de l'UT, vous êtes tous avec des blouses blanches. Tout de suite, on a l'image en tête de la paillasse qu'on a connue en salle de SVT. Tu parlais des matières que vous aimez. Il y a du labo, qu'est-ce que vous faites en classe? Il y a quoi comme matière?
Alors en fait, les matières, elles sont très très diversifiées et on ne peut même pas vraiment parler de matière. On pourrait plus donner un titre à un cours que vraiment une matière. En fait, en première année, on va d'abord avoir une approche assez généraliste de tout ce qui est construction des organismes, que ça va être végétaux et animaux, du coup, pour les autres parcours, parce qu'on a aussi un parcours de biologie médicale. Et du coup, voilà, c'est ça. C'est comprendre, en gros, comment fonctionnent les petites briques Lego avant de pouvoir construire un mur, si vous voulez. Et nous, par exemple, en deuxième année, comme on a une grosse partie sur tout ce qui est fabrication d'eau potable, gestion des eaux usées, et bien en parallèle, en avant, on a des cours d'hydraulique qui vont nous permettre de comprendre comment les fluides circulent, ce genre de choses. Donc c'est vraiment construit pour monter l'escalier, en tout cas.
Si je peux compléter, donc, ils sont en blouse blanche parce qu'ils sont en bio et que c'est une façon de les reconnaître. Mais en sciences de l'environnement, il y a aussi en fait une partie très technique labo. Donc on aime bien beaucoup mettre en avant le terrain parce que c'est la fibre environnementale qui veut ça. Mais il y a aussi une grosse partie labo parce que bah, quand on veut détecter des pollutions, quand on veut doser des choses, hein, il y a beaucoup de chimie. Donc il y a aussi une partie labo en blouse blanche. Donc il y a les deux côtés.
Peut-être qu'il aurait fallu mettre les bottes sous la blouse.
Voilà, ah c'est
oui, les bottes,
ça.
Tout à fait.
Alors, tout à l'heure, on parlait de la diversité des débouchés professionnels. Est-ce que, néanmoins, c'est essentiellement les collectivités locales, à terme, qui vont embaucher ces jeunes étudiants ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des actions de lobbying qui pourraient avoir lieu, des entreprises qui, justement, ne souhaitent pas qu'on aille plus avant dans la protection de la biodiversité et qui pourraient utiliser ces étudiants à ces dessins ?
Tout est question de budget, je pense.
Ouais, alors, ouais, c'est un peu ça. Parce qu'il n'y a pas que des collectivités qui vont les embaucher. C'est vrai qu'il y a, c'est beaucoup eux qui offrent des terrains de stage. Mais il y a aussi beaucoup, ils vont aller aussi beaucoup travailler dans ce qu'on appelle les commissions QHSE, les entreprises, toutes les grosses entreprises maintenant, même les plus petites d'ailleurs. Elles ont des commissions qui gèrent l'hygiène, la sécurité, l'environnement. Et nos étudiants qui sont un peu polyvalents sont capables à la fois de gérer les déchets, de gérer un peu de sécurité au travail, etc. Et ils sont pas mal embauchés. Et là, pour le coup, il y a même des groupes qui finalement sont pas très... qui vont faire un peu du greenwashing, qui risquent de venir les chercher. Donc on leur en parle de ça, on essaye de les sensibiliser pour que, bah, oui, bien sûr, il y a des entreprises qui vont les embaucher, qui font ça, mais peut-être d'apporter, d'essayer de renforcer, que ça soit pas que du greenwashing et qu'on essaye de mettre en place des politiques vertueuses, même dans des entreprises qui, à la base, ne le sont pas du tout, quoi. Voilà, donc on essaye de leur faire porter un peu le message dans ces entreprises-là. Mais ouais, on s'engage pas. Enfin, c'est clair qu'il y a des gros groupes qui pourraient les embaucher pour faire du greenwashing, c'est clair.
J'allais poser la question. La question a été répondue avant même que j'ai l'opportunité de le faire.
Alors, je me saisis de ce micro. Je crois que notre invitée suivante est là, donc je ne vais pas trop longtemps vous garder ici. J'aimerais savoir, chers invités autour de cette table, où est-ce que vous trouvez de l'information fiable, qui vous semble fiable, sur l'environnement ?
Vas-y.
Je t'en prie. Ok, bah, j'y vais. Du coup, justement, dans notre formation, on parlait de matière tout à l'heure. On a des matières qui nous apprennent à faire des recherches bibliographiques, donc à être sûr de notre source. Et du coup, en termes de sources et de recherches, on a les associations pour ce qui est recherche locale. On va aussi rechercher sur les bases de données nationales. Par exemple, en termes de biodiversité, on va souvent voir sur l'INPN, où on se base aussi sur des normes, et on va voir sur NIAID pour les données eau. Donc c'est des données, enfin les recherches sont souvent faites sur des sites nationaux et assez fiables dans ce domaine-là. Et puis les profs nous aident.
Alors pardon, j'entends bien toutes ces recherches, mais là c'est des sources pour des professionnels que vous êtes. Mais du coup, est-ce qu'il y a des médias qui vous semblent fiables, assez suffisamment documentés, vous avez le droit de dire non, hein, sur ces questions ?
C'est pas tant la question est-ce qu'il y a un média fiable ou pas, c'est comment sont amenées les informations et il faut qu'elles soient sourcées, vérifiées. Enfin, je veux dire, quand il y a un chiffre, il faut qu'il soit expliqué. S'il y a un graphique, il faut qu'il soit dans les normes. Parce que sinon, peu importe que ce soit Le Monde ou n'importe lequel, si la source n'est pas scientifiquement correcte, elle vaut rien, peu importe ton journal, peu importe le média.
Et c'est vrai que dans les médias grand public, c'est compliqué de savoir finalement lesquels sont réellement fiables ou pas. Je pense qu'en plus, ça dépend vraiment des articles. Et je suis d'accord avec vous, c'est assez compliqué d'aller rechercher, en tout cas dans les médias grand public. Quand c'est des trucs professionnels, c'est peut-être plus facile. Mais
ça dépend beaucoup du travail de sourçage qui est fait dans les articles. En fait, moi, j'ai en tête effectivement des articles dans certains journaux grand public où les journalistes mettent en avant la source de l'information qu'ils sont allés chercher, dans quelle revue scientifique ça a été pris, sur quelle base de données, ce qui peut permettre après de retrouver un peu la traçabilité de l'information. Et parfois, on a des informations qui sont balancées en vrac sans aucune source. Ce qui fait que là, bah, c'est quasiment à la discrétion du lecteur de devoir faire ce travail qui n'est pas évident tout seul, quoi.
Donc ça veut dire qu'il y a aussi peut-être de la place à prendre sur, disons, la médiation de ces informations
pour
le travail avec les journalistes.
Clairement. On a développé ça un peu depuis quelques années aussi, sensibiliser nos étudiants à faire un travail de médiation, de sensibilisation autour, pour nous, des thématiques environnementales essentiellement, mais même de manière plus générale, de la médiation autour de l'information scientifique.
Donc ça veut dire que même reporter, allez, on va dire Vert de rage, et puis une émission La Terre au carré, par exemple, ça vous semble pas top, ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer ?
Alors Vert de rage, je connais pas. Les deux autres médias, bah, moi, c'est des choses effectivement que je peux aller consulter. Et bah, typiquement, sur ce genre de médias, ce que j'aime bien, c'est que très souvent, la source est vraiment explicitée. Ce qui peut permettre... Dans l'étude des thématiques environnementales controversées, moi, je vais souvent chercher des articles sur Reporter, justement, parce que ça permet de bien alimenter les controverses.
Bon, bah, je vois qu'il y a consensus pour Reporter, apparemment.
Alors c'est un aspect de la controverse, évidemment je ne me limite pas à ça. Il y a aussi d'autres médias à aller chercher pour pouvoir chercher d'autres vues, d'autres acteurs. Mais ça, moi, ça fait partie des sites sur lesquels je vais aller chercher des choses parce qu'il y a toujours une prise de position qui est hyper forte sur une thématique controversée.
Est-ce qu'on vous accuse de former des éco-terroristes ?
Bon, ça m'est jamais arrivé.
Ce serait original, moi j'aimerais bien en tout cas.
Mais je crois pas. Non. En tout cas, on les ouvre, on espère qu'ils sont curieux après avoir fait cette formation et qu'ils sont ouverts d'esprit, mais je ne crois pas qu'on les forme à être des éco-terroristes.
Non, enfin, on est beaucoup plus dans une approche très nuancée, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a plusieurs acteurs, il faut... malheureusement, parfois, on est plus souvent obligé de faire compiler... de faire allier plutôt le besoin des humains à l'impact sur son environnement et pas juste de dire bah non, c'est pas possible, votre autoroute, vous pouvez pas la construire. On est plus dans une approche de chercher des compromis, dévier, détourner, trouver des solutions que purement et simplement dans un non ou dans une action brutale.
Parce que je crois que s'ils étaient trop tranchés, professionnellement, ça marcherait pas.
Et scientifiquement non plus, d'ailleurs.
Oui, justement, c'est ça que j'aime bien dans ma formation et dans ce que je veux faire après plus tard et dans mes expériences professionnelles, c'est la transversalité, justement, des projets environnementaux avec, dans mon expérience dans le public, le besoin des élus de différents secteurs. Voilà.
C'est beau.
Merci à vous pour la présentation de cette formation. On fait une courte pause musicale et puis on va essayer de rattraper. Je pense que ça va être un peu compliqué maintenant, mais il est 15h30. Allez, on va avoir le temps. On va recevoir Maëlys Durand qui va nous parler du SUAPS.